Lanza del Vasto, 1901-1981, poète mystique et visionnaire. Voici la seconde et dernière partie de l'intervention de Daniel Vigne, enregistrée à l'abbaye de Belloc le 25 juin 2011. Daniel Vigne est le président de l'Association des Amis de Lanza del Vasto. Il est également professeur à l'Institut catholique de Toulouse. Voici donc la deuxième partie de son intervention consacrée à Lanza del Vasto, poète mystique et visionnaire.
En 1948, la première communauté de l'Arche, communauté rurale qui s'implantera en Charente-Maritime d'abord, à Tournier, un frère de l'abbaye me disait ce matin qu'il y était allé il y a 60 ans et avait rencontré Lanza là-bas. Petite équipe donc, vie de ferme, travaux agricoles, vie extrêmement pauvre, en plus on est au lendemain de la guerre, témoignage de simplicité, on dirait aujourd'hui de sobriété, de simplicité heureuse, mais difficile, surtout que les gens qui l'avaient rejoint étaient plutôt des citadins. Cette première expérience communautaire va durer 5 ans, à peu près, 6 ans. Et puis en 53 et 54 surtout, Lanza sent un nouvel appel à repartir pour l'Inde, où il va rencontrer, puisque Gandhi a été assassiné en 1948, l'année même de la fondation de l'Arche, il va rencontrer le successeur de Gandhi en Inde, qui s'appelait Vinoba, très peu connu en Occident, personnage extrêmement intéressant, admirable, qui sillonnait le sous-continent indien, en invitant à des redistributions de terres, en invitant concrètement les riches à partager leurs terres et en donner une partie aux pauvres. Et qui faisait ça avec succès. Des millions d'hectares ont été redistribués grâce à l'action et la prédication de Vinoba. Et bien Lanza, en 1954, fait un nouveau pèlerinage en Inde, dans les pas, cette fois, de Vinoba. Pendant des mois, il va l'accompagner, se levant à 3h du matin, n'est-ce pas, voyageant jusqu'à l'aube, et puis arrivant dans un village, et là Vinoba prenait la parole, convoquait le village, les riches, les pauvres, puis disait aux riches, « Toi, là, tu as combien d'hectares ? Tant d'hectares. Tu as combien d'enfants ? Tant. Tu as combien de fils ? Tant de fils. Eh bien, tu vois, je t'annonce une bonne nouvelle, tu as un fils de plus. Tu vois, celui-là, c'est comme ton fils. Donc tu vas lui léguer une part de ce que tu lègueras à tes fils. » Vinoba ou le nouveau pèlerinage, ce sera le livre que Lanza rédigera à son retour d'Inde. La communauté à ce moment-là se transplante, d'abord à Tourette-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes, puis à Bolène dans le Vaucluse, où elle va demeurer jusqu'en 65 à peu près. Là, cette communauté se structure, Lanza devient patriarche, au sens ni paternaliste, ni à plus forte raison, sectaire ou quoi que ce soit de ce genre du mot. D'ailleurs, Lanza avait une très grande pudeur, un immense respect des personnes, rien d'un gourou, mais bon, cette communauté est née de lui, il en est un peu le père, et il lui donne peu à peu forme, avec aussi les compagnons, puisque c'était leur nom, compagnons de l'Arche. Des familles le rejoignent, des premières actions non violentes également sont menées à ce moment-là, car Lanza a toujours eu dans l'idée que l'Arche était à la fois un laboratoire de vie intérieure, de transformation personnelle, un peu à l'image d'un monastère, sauf que ça regroupait des familles et des célibataires, et aussi un lieu à partir duquel peuvent être menées des actions, des engagements. Je vous en donne quelques exemples. Lanza va s'engager pendant la guerre d'Algérie contre la torture que pratiquait l'armée française, contre les arrestations arbitraires que, en France, n'est-ce pas, on pratiquait sur, pour ainsi dire, délits de faciès. Et donc, des compagnons de l'Arche et lui-même vont jeûner, quelquefois plusieurs semaines, vont se faire arrêter volontairement pour partager le sort des prisonniers algériens ou maghrébins. Autre action moins connue et à mes yeux pourtant très importante. Pendant le Concile Vatican II, Lanza del Vasto se rend à Rome et dans une abbaye trappiste proche de la ville, pendant le carême de 1963, entreprend de jeûner 40 jours. Il a plus de 60 ans. De façon discrète, il en a fait part seulement au pape et à quelques évêques. Le but de son jeûne est de prier pour les évêques rassemblés et de supplier l'Église de faire un pas en direction de la non-violence, en direction d'une nouvelle manière d'envisager les problèmes de la guerre et de la paix. Évidemment, l'inspiration de cet acte, de ce jeûne, lui vient de Gandhi. Mais c'est au cœur même de l'Église catholique, et en tant que catholique, que Lanza veut ici retrouver ce que j'évoquais tout à l'heure, la force des béatitudes, heureux ceux qui font la paix. Mais comment fait-on la paix? La Rome antique disait « Si vis pacem parabellum », si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh bien, osons retourner la formule, si tu veux la paix, prépare la paix. Si tu veux la paix, emploie pour atteindre ce but des moyens conformes à ce but. La fin est dans les moyens, disait Gandhi, comme l'arbre est dans la graine. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. On n'ira pas à la paix par les moyens de la guerre. Si on prend les moyens de la guerre, on récoltera ce qu'on aura semé. Car la violence engendre la violence. Il faut dire non à la violence. C'est la non-violence. Qui n'a rien d'un pacifisme plus ou moins timoré. Et la vie de Gandhi, qui est celle d'un guerrier, le prouve. Qui est celle d'un martyr. Aussi, puisqu'il meurt, vous le savez, assassiné. D'ailleurs, Gandhi nommait lui-même la non-violence d'un double nom. Ahimsa, qu'on peut traduire non-nuisance, non-violence, avec ce A privatif, comme en français, n'est-ce pas ? Refus de quelque chose. Et c'est vrai que dans la non-violence, il y a quelque chose comme un non. Non à la violence. Mais, je le répète, la non-violence n'est pas purement négative, elle n'est pas un simple refus. Et l'autre nom que Gandhi donnait à la non-violence, c'est Satyagraha, qui veut dire la force de la vérité. Comme si la vérité à elle seule, n'est-ce pas, pouvait se montrer plus forte que la force. J'aurai pas le temps ici de vous montrer comment cette équation un peu étrange, vérité contre force, se vérifie, mais la supériorité de la vérité sur la force fait en tout cas partie intégrante du message gandhien. Aller à la paix par les moyens de la paix. Eh bien, le lundi saint de 1963, et comme en réponse à sa prière, il a jeûné plus précisément 39 jours, laissant au Christ, n'est-ce pas, le 40e, hein, et le fait d'avoir jeûné jusqu'à 40 jours. Donc s'étant arrêté juste avant Pâques, Lanza apprend que le pape Jean XXIII publie l'encyclique Pacem in Terris, le lundi saint de 1963. On ne sait pas, n'est-ce pas, que cette encyclique a été précédée et très certainement portée par le jeûne de ce témoin-là. Encore une fois, ce n'était pas une action publique, mais je veux ici rendre hommage à son courage. Par la suite, et de façon non moins parlante, non moins actuelle aussi, Lanza del Vasto a tiré, si j'ose dire, la sonnette d'alarme, et plus qu'une sonnette d'ailleurs, contre l'armement nucléaire français, dont on sait que le général de Gaulle avait voulu faire la gloire, n'est-ce pas, de notre nation, entrer dans le club des grands et des puissants grâce à cette arme abominable. Lanza a écrit au général de Gaulle, en le suppliant de voir que l'honneur de la France aurait été plutôt de refuser d'entrer dans cette spirale, dans ce soi-disant équilibre de la terreur. Comment peut-on forger une expression pareille, n'est-ce pas, l'équilibre de la terreur? Nous savons aujourd'hui, ou plutôt peut-être nous ne savons pas encore assez, à quel point cette folie de la course aux armements qui a mis non seulement les deux blocs en mesure de détruire je ne sais plus combien de dizaines de fois toute vie sur Terre, mais non seulement les deux blocs, mais évidemment dans leur sillage, tous ceux qui aspirent au statut de grande puissance ont cru bon de s'engager, de l'Inde au Pakistan, à l'Iran aujourd'hui, n'est-ce pas, et j'en passe, et bien d'autres, et bien c'est finalement tous les pays du monde qui légitimement vont réclamer d'être possesseurs de cette arme-là. Et comment pourra-t-on leur en refuser le droit? Et peut-on croire que lorsque toute la Terre aura des armes nucléaires à ne plus savoir qu'en faire, nous serons enfin en sécurité? Comment ne pas voir que ce chemin-là est un chemin de mort? Faudra-t-il que je ne sais quel dictateur l'utilise, hein, pour que s'enclenche le scénario apocalyptique de la guerre juste, parce qu'évidemment chacun est convaincu, même lorsqu'il largue la bombe atomique sur le voisin, qu'il le fait dans son droit et par nécessité. Donc, il n'a pas été entendu, malheureusement. Mais simultanément, et d'une façon qui lui a valu encore moins d'être entendu et respecté, Lanza del Vasto a mis en garde contre l'énergie nucléaire dite pacifique. Soyons lucides, les mêmes usines fabriquées, n'est-ce pas, les mêmes techniques fabricantes d'électricité permettent aussi d'alimenter en plutonium les bombes qu'on larguait dans la, n'est-ce pas, à Mururoa et ailleurs, et en Algérie. Donc la solidarité profonde entre ces deux faces de la même technique était évidente. Et d'ailleurs, les problèmes que soulèvent aujourd'hui les deux aspects inséparables de cette énergie et de ce feu nucléaire, nous les avons sous les yeux. Lanza a dit qu'il ne fallait pas désintégrer, il ne fallait pas casser l'atome. Qui désintègre finira désintégré. Fasse le ciel qu'il est tort. Mais entendons l'avertissement. Avant d'y être obligé par je ne sais quel Tchernobyl ou Fukushima plus proche de nous. Mais avouons-le, dans les années 60, dire que l'énergie nucléaire n'était peut-être pas la meilleure chose du monde. Dire que les prodiges et les merveilles de la civilisation pétrolière n'étaient peut-être pas aussi indemnes de tout danger. Dire que la course à la consommation n'était pas forcément un idéal humain le meilleur qui soit. C'était passé pour rétrograde. C'était se voir jeter à la figure la sempiternelle objection. Mais vous voulez nous ramener aux cavernes? Vous voulez comment voulez-vous revenir en arrière? On ne pourra pas revenir en arrière. Et Lanzin répondait souvent avec un demi-sourire, on ne pourra pas ne pas revenir en arrière. Sur un certain nombre de points en tout cas. La roue du temps renversera des discours et elle les a renversés. Ce qui nous paraît aujourd'hui une évidence, à savoir que après X choc pétrolier et en attendant le dernier, n'est-ce pas, le prochain, je veux dire, et puis l'épuisement de ces gisements, il faut chercher des alternatives. Le fait que, l'ultra-mondialisme et la circulation éperdue et le gaspillage incroyable de nos énergies, de nos matières premières, impose des changements profonds, urgents. Tout ça qui est passé dans le langage courant, n'est-ce pas ? On appelle ça l'écologie, mais bien avant l'écologie, Lanza del Vasto avait tout dit, n'est-ce pas ? Avait lancé cette mise en garde dans ses mots à lui. Donc, cet appel à... Alors certains diront décroissance ou, je disais tout à l'heure, sobriété ou économie solidaire ou développement durable, peu importe les formules ici. Repenser notre civilisation après l'ivresse qu'elle a connue, hein, des Trente Glorieuses, c'est en quelque sorte la réalisation d'une prophétie. Lanza. Et il s'en plaignait à crier dans le désert, à prêcher dans le désert. Peu de gens l'ont rejoint, peu de gens l'ont écouté. Et pourtant, c'était du bon sens. Mais c'était trop tôt, peut-être. Et à ceux qui le jugeaient rétrograde, passéiste ou quoi que ce soit de ce genre, il serait assez facile de dire, de répondre aujourd'hui qu'il avait plutôt 50 ans d'avance que 50 ans de retard, ou 2 siècles de retard. Lanza a été pionnier, prophète, oserais-je dire, sur bien d'autres plans, permettez-moi de les évoquer. Celui du dialogue interreligieux. Car c'est bien avant des gens aujourd'hui connus, trop peu connus en vérité, mais comme Jules Monchanin, Le Sceau, Dom Ben Griffiths, qui sont allés à la rencontre de l'Inde, c'est bien avant eux que Lanza del Vasto, en Inde, s'intéresse à l'hindouisme, au bouddhisme, en tant que chrétien. Et fonde une communauté large, qui tout en étant profondément évangélique dans ses racines, voulait être, et est toujours d'ailleurs, accueillante à des croyants de plusieurs religions. Et même à des chercheurs de vérité, ne se rattachant pas explicitement à telle ou telle religion, dans le respect, dans le sens aussi d'un dialogue. Un demi-siècle d'avance, en tout cas au moins 30 ans d'avance, dans cette ouverture en tant que chrétien aux autres religions, l'esprit d'assise, dirions-nous. Lanza en a été porteur. Précurseur aussi, je disais tout à l'heure, critique vis-à-vis de la société, du machinisme, de l'hyperconsommation, précurseur aussi et de façon plus profonde d'un effort de refondation sociale, ô combien urgent. Avant que le système ne broie complètement l'homme, remettons l'homme au centre du système. Et pour cela, repensons les liens humains à hauteur d'homme. Cessons de déléguer à des organisations internationales ou mondiales, faites de gens qui ne sont pas forcément plus meilleurs que les autres, n'est-ce pas, le soin de gérer les problèmes du monde. Commençons à notre niveau. Et les communautés de l'Arche n'étaient rien d'autre, au fond, qu'un effort modeste, petit, mais qui avait l'avantage d'être effectif, concret, pour un changement de vie. Ne demandons pas à la société de changer, commençons par nous changer nous-mêmes, à notre mesure. Ce message commence à peine à être entendu. Il ne sera pas facile à recevoir. Pourquoi ? Parce qu'il ne se situe pas au niveau des idées, parce que ce n'est pas un programme politique, c'est pas un programme électoral, ça. C'est un changement individuel. Ça se fera à la vitesse et dans les limites des existences individuelles, chacun de nous. Et pourtant, les plus sages, même de ceux qui réfléchissent au plus haut niveau, le savent. Il va falloir redéfinir l'espace social en changeant d'échelle et en cessant de recourir au niveau macro pour privilégier le niveau micro, c'est-à-dire le niveau humain, celui de chacune de nos vies. Ne croyons pas d'ailleurs que cet effort-là soit dénué d'efficacité. Je crois que les petits changements, n'est-ce pas, les petites lumières qui s'allument, ont plus d'influence sur le devenir de pays et sur les évolutions de l'histoire que des grands coups d'épée dans l'eau, hein, et des révolutions qui n'en sont pas. Donc, ce message de responsabilité, de responsabilisation, que l'Arche, à sa manière, les communautés de l'Arche essayent de vivre, mérite, je crois, toute notre attention. Car l'Arche, je voudrais le dire au passage, n'était pas que des communautés de vie, communautés rurales par exemple. C'était un mouvement, et ça l'est toujours, de gens qui vivent aussi en ville. Et d'ailleurs, la communauté de l'Arche s'est aujourd'hui redéfinie de façon plus large. Donc elle rassemble des gens qui ont toutes sortes de métiers, d'états de vie, de types d'engagement, mais une direction est donnée. Et modestement, chacun des membres de cette grande communion, on pourrait dire, plutôt que communauté aujourd'hui, essaye de la prendre au sérieux. J'en arrive aux dernières années pour évoquer au passage comment l'oublier, l'épouse de Lanza del Vasto. Il s'est marié en 1948, l'année même de la fondation de l'Arche, avec celle que nous nommions Chanterelle, Simone Gébelin, de son nom civil, de mère juive d'ailleurs, et avec qui il a partagé toute la grande aventure de l'Arche. Elle meurt en 1975. Elle était chanteuse, musicienne, une voix exceptionnelle. Je disais que Lanza était musicien. C'est avec Chanterelle qu'ils ont composé des chants populaires, repris de la tradition médiévale, mais aussi des chants religieux très, très beaux. Ils ont reçu deux fois le Grand Prix de l'Académie Charles Cros pour cette œuvre musicale. Et Chanterelle, donc, qui avait accompagné toute cette fondation communautaire, s'éteint 6 ans avant la mort de Lanza lui-même. Dans ces dernières années, Lanza est en voyage, presque constamment, partout. Il sillonne l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, retourne en Inde, fait des conférences en Australie, au Japon, tout autour de la Méditerranée, jusqu'au bout. Il est l'apôtre de la non-violence pour l'Occident, et il meurt en Espagne le 5 janvier 1981, la veille d'une fête qu'il chérissait, la fête de l'Épiphanie, fête aussi du baptême du Christ, dans les traditions orientales, dans les églises orientales. Il meurt, et une des images que vous admirerez dans l'exposition en témoigne, comme en lien étroit avec la figure de Saint Jean-Baptiste. Quelqu'un a écrit un livre intitulé « Lanza del Vasto, le précurseur ». C'est profondément vrai. Lanza a été, pour des millions de gens, ses lecteurs, ses auditeurs au cours de ses conférences, un témoin discret, j'oserais dire le portier, qui, au seuil de l'Évangile, fait signe en direction du Christ. L'arche occupe cette place humble. Lanza disait souvent, nous ne nous substituons à aucune tradition religieuse. Nous sommes de ces laboureurs grâce auxquels, si Dieu le veut, la semence de la parole et les grâces pourront germer. Nous sommes, disait-il aussi avec humour, de ces casseurs d'asphalte. Il s'identifiait presque à ces ouvriers que la France importait d'Afrique du Nord pour leur faire faire les travaux les plus difficiles. Eh bien, oui, nous sommes de ces gens qui cassent le bitume ou le béton pour retrouver la terre. Parce que sur le bitume ou le béton, la vie ne germe pas. Or, notre civilisation, elle nous a comme bétonnés, elle nous a comme engoudronnés, le cœur, l'esprit, le corps aussi. Et la sagesse que proposait Lanza del Vasto n'était rien d'autre qu'une façon de retrouver un certain silence, une certaine disponibilité intérieure, à la façon dont Jean-Baptiste, dans l'Évangile, baptise d'eau, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire, et invite aussi à un changement de vie, invite à une conversion, un retournement. Mais il vient celui qui est plus grand que moi. Sagesse spirituelle, donc, toute tournée vers le Christ, mais en même temps, qui a une dimension universelle. Et c'est pourquoi Lanza, j'ai récemment inventorié les traductions qui avaient été faites de ses livres. Bon, lui-même a écrit à peu près 40 livres. J'ai découvert que à peu près 80 livres ont été donc traduits dans des langues étrangères, dans diverses langues évidemment. Donc, d'un bout à l'autre de notre planète, des gens ont lu Lanza del Vasto dans leur propre langue, et y compris, n'est-ce pas, en polonais, en japonais. Je ne savais pas, je dois dire jusqu'à Pentecôte, que son message avait une telle audience. Il est un peu oublié aujourd'hui. Et le frère Jean-François, lorsque nous avons eu le projet de cette conférence, m'a dit « Mais vous savez, Lanza del Vasto, peu de gens s'en souviennent aujourd'hui. » Eh bien, je dis « Tant mieux, tant pis. » on fera ce qu'il faut pour faire à nouveau parler de lui. Et pour vous le dire au passage, puisque comme président de l'association des Amis de Lanza del Vasto, j'ai eu cela très à cœur, nous avons inauguré à la Pentecôte un site internet assez complet, on va encore l'enrichir, mais il y a déjà beaucoup, beaucoup de données là-dessus, un site internet, donc ouvert la veille de la Pentecôte, et dans les jours qui suivaient, je me suis aperçu, ça a été une très belle surprise pour moi, que je crois en 3 jours, 300 personnes l'avaient visité, de 22 pays. Voilà, donc ça va dans le bon sens, je ne sais pas à ce jour, puis ça fait donc 2 semaines, combien d'internautes s'y sont intéressés. Vous pouvez vous-même le visiter, c'est très simple, www.lanzadelvasto.com. Lanza del Vasto, tout attaché. Voilà, ce sera un lieu de, aussi un outil de formation, car beaucoup de gens aujourd'hui nous demandent, puisque les livres de Lanza sont pour beaucoup d'entre eux introuvables, si on peut trouver des extraits, des citations, et puis une idée un peu de l'œuvre, de l'homme, de son parcours et de son message. Alors voilà, tout ça est en train d'être mis sur la toile, comme on dit, et donc accessible partout dans le monde. Lanza poète. Le chiffre des choses est son recueil unique, quoique ayant connu plusieurs éditions. Et donc le poète ici nous est donné tout entier, comme j'oserais dire Baudelaire dans Les fleurs du mal. On peut être le poète d'un recueil essentiel et principal. 126 poèmes, dont les premiers et les derniers ont une résonance clairement religieuse et chrétienne. Mais les parties centrales sont plus variées et touchent aussi aux êtres de la nature, aux arbres, aux fleurs, aux êtres humains aussi, dont Lanza fait le portrait. Il fait aussi son propre portrait. Le titre, le chiffre des choses, est un peu étrange et en même temps dit très clairement l'esprit de cette poésie. Il faut entendre chiffre ici au sens du déchiffrement. Le chiffre, même étymologiquement d'ailleurs, c'est le secret, xifra. C'est ce qui est comme caché au cœur des êtres et que le poète voit ou peut-être entend et met en mots et en musique. Le chiffre, c'est le sens. C'est le message, parfois secret, parfois très sensible, très visible. Mais qu'il soit sensible et visible ou qu'il soit secret, pour le percevoir, il faut comme se mettre dans un certain état, une certaine disposition. Et les artistes, on le sait, ont cette capacité d'écoute, de perception. Lanza poète n'a donc rien de ce cliché, je dirais, que nous véhiculons, post-romantique, du poète traversé par je ne sais quels émois sentimentaux, du bateau ivre à la Rimbaud, n'est-ce pas, hein, de cette poésie dont Rimbaud disait qu'on doit l'atteindre par le dérèglement de tous ses sens. « Oh, que ma quille éclate, oh, que j'aille à la mer !» C'est bien dit, mais le message, n'est-ce pas, pour le coup, n'est pas celui que Lanza veut nous faire entendre. Cette poésie à la limite de la folie, cette poésie en forme de voyage en enfer, et qui nous mène, il faut bien le dire, aux formes extrêmes, actuelles, éclatées, illisibles parfois, d'une poésie qui se veut toujours plus originale, Lanza n'épouse pas cette conception-là de la poésie. Donc, son vers sera régulier, assez libre, mais rythmé, respectueux de la rime, très soucieux de clarté, j'oserais dire de transparence. Voilà. À l'opacité des postmodernes, Lanza préfère la clarté des classiques. Et pourtant, et vous allez l'entendre, sa poésie est moderne au sens où elle n'a rien, comment dire, de solennel, de ronflant ou de pompeux. Elle se veut directe, elle est quelquefois un peu rocailleuse, mais elle est claire. J'ouvre le recueil par un poème qui est reproduit d'ailleurs dans l'exposition et qui s'appelle Liminaire. En 8 lignes, je crois que Lanza del Vasto nous dit comment il voit la poésie. Homme qui n'a pas vu mon visage de vie, connaît mon vrai regard à travers ces mots-ci. Ma stature et mon pas, mon souffle aussi, et l'exacte chaleur de mes deux mains amies. Car ces mots ne sont pas du vent battu, puisqu'aucun d'eux ne délire ou ne ment, mais bien mon corps sans chair sorti, vois-tu, pour devancer le jour du jugement. L'idée que la poésie est une sorte de corps de résurrection, un corps invisible, un corps spirituel fait de paroles, mais où l'auteur, le poète, se donne, se livre, se donne à voir et à entendre. C'est une clé pour la poésie de Lanza del Vasto. On peut peut-être dire au passage que la première et actuellement unique thèse de doctorat sur sa philosophie a été soutenue à l'université de Pau et des Pays de la Dour, il y a 6 ans. Il se trouve que c'est ma fille, plutôt notre fille, qui est professeure de lettres à Tarbes, qui s'était prise de passion pour cette poésie. Donc, elle le mérite, je crois. Poésie visionnaire, allons jusqu'au bout maintenant de ce titre. Vous en avez déjà la clé, puisque son but est, je disais, le déchiffrement des êtres et des choses. Peut-être la meilleure image qu'on puisse en donner est celle du poème suivant, un des plus longs du recueil, et s'il est en tête, c'est parce que Lanza lui a accordé une immense importance, il est intitulé « Le vitrail ». Vous y retrouvez l'image de la lumière par laquelle j'ai commencé. Nous verrons brûler l'être et l'apparence, telles que leur étreinte brûle en cette rose ronde. Lanza écrit cela devant le vitrail sud de Notre-Dame de Paris. Quand mort est revêtu de nos corps immortels, nous remonterons blancs comme un prêtre à l'autel, les degrés de ce monde. Vision, donc, d'une création traversée par la lumière, d'une création révélée par la lumière. Je lis la suite. Quand nos corps décantés, nos corps de verre, frappés de ciel et de splendeur sévère, trahiront la couleur dont notre âme est chargée. Chacun de nous est un vitrail qui attend, pour ainsi dire, d'être visité par la lumière divine pour resplendir et pour dire aux autres, n'est-ce pas, ce qu'il est et la parole dont il était porteur. Le poème que je ne vous lirai pas en entier continue en forme de contemplation de tous les êtres et jusqu'au plus humble, la limace, n'est-ce pas? Elle a sa place dans le poème, mais bien sûr aussi l'oiseau, le poisson, la mer. Il me revient au moins ces quelques vers qui sont parmi les plus beaux. Quand s'illuminera toute similitude, toute relation, comme lumière prise au rayon de la pluie, dans l'arc-en-ciel, comme l'étoile à la nuit se dénude. Et ailleurs, quand le vide se peuplera de ponts et d'ailes, quand nous déchiffrerons le vol de l'hirondelle. Voilà, quand le vide se peuplera de ponts et d'ailes, quand ce qui nous semblait distance et séparation sera comme habité par le tissu de nos relations. Quand nos vies tout entières, je vais vous lire encore ce passage que j'aime beaucoup, quand tous nos pas portés ça et là et leur route soudée derrière nous par le plomb de l'oubli se dresseront soudain dans nos yeux avec toutes nos tristesses, tous nos désirs et tous nos doutes perdus et l'entrelac des actes accomplis. Quand nos vies se noueront, n'est-ce pas, en un bouquet, en un réseau de relations inséparables, et la communion des saints qu'est-elle, sinon, n'est-ce pas, ce maillage et cet entrelac que l'amour aura jeté dans le vide apparent de nos distances et qui remplira ce vide à jamais. Vision donc d'un univers habité, d'une vocation humaine grandiose, n'est-ce pas ? Parce que si l'univers est relation et convergence et harmonie, c'est l'homme qui en est la clé. Nous sommes responsables du cosmos entier. Vision aussi, je l'ai dit, mais j'y insiste, des limites et des erreurs de notre civilisation. Lanza del Vasto a été un penseur résolument critique de son siècle. Mais il était dans son siècle tout en étant contre lui. Et surtout, il était pour son siècle tout en étant contre lui. Il dit, en préface d'un de ses livres les moins lus d'ailleurs, parce que les plus sévères, les quatre fléaux, il dit, avec une sorte de modestie et d'ironie assez terrible, il dit, mais tous ces malheurs, je les annonce pour qu'ils n'arrivent pas. Il y a le prophète de malheur, d'ailleurs dans la Bible, c'est celui à qui Dieu dit d'annoncer tout ce qui va se passer si l'homme ne se convertit pas. Et j'ajouterai volontiers que ce message lui a été difficile à porter. Ce n'est pas avec la légèreté de celui qui s'en moque qu'il a mis en garde notre civilisation. C'est avec la responsabilité de celui qui en fait partie, qui en est solidaire. Lanza a souffert. Et son visage porte quelque chose d'une gravité, d'une douleur, dont certains, ayant vu l'exposition, m'ont dit qu'ils y étaient sensibles. Mais c'est une gravité joyeuse, c'est une gravité pleine d'espérance. C'est une sévérité que j'ose dire paternelle. Notre civilisation, elle joue les enfants gâtés. Et peut-être lui faut-il de ces prophètes qui l'avertissent qu'on ne peut pas jouer ce jeu-là trop longtemps et que à semer l'insouciance et l'inconscience, on pourrait bien avoir à récolter pour des années, voire des siècles, ce dont on se serait volontiers dispensé. La pollution nucléaire étant une image évidemment frappante, mais seulement une image et un aspect de du désastre écologique que nous sommes en train de fabriquer. Mais je répète, dans cet avertissement sévère, dans ce cri d'alarme poussé par un homme que Dieu avait saisi et à qui Dieu avait demandé d'être à la place difficile où il était, eh bien, ce cri d'alarme est en même temps un cri d'espérance, une invitation puissante à dire, à ce que chacun, j'ose dire, se dise à lui-même, et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour empêcher le désastre de nous ensevelir? Le déluge de feu sera fait de main d'homme. Voilà un des vers les plus terribles du Noé, pièce de théâtre dont vous verrez aussi le livre. Noé ou drame antédiluvien d'anticipation. Vous avez compris. Hein, Lanza projette sur les temps d'avant le déluge, ce qui est au fond peut-être notre situation, cette espèce d'inconscience. Eh bien, Noé dit « le déluge de feu sera fait de main d'homme ». C'est-à-dire que le déluge d'eau, Dieu ne l'enverra plus, d'ailleurs il a promis que jamais plus il ne détruirait la terre. Mais il ne peut pas empêcher les hommes de se détruire eux-mêmes. Et ce déluge de feu, qu'il soit nucléaire ou qu'il soit climatique, ou les deux, c'est-à-dire qu'il soit brutal ou peut-être sous la forme inquiétante d'un réchauffement irréversible, c'est nous qui l'avons allumé. Retenons ces avertissements, non pas comme ceux d'un prophète de malheur, mais comme ceux d'un sage et d'un inspiré. J'ose à imaginer, rêver peut-être, que notre civilisation, puisqu'elle sera forcément remplacée par une autre, c'est la loi de l'histoire, puisqu'aux siècles qui sont ceux que nous connaissons, en succéderont d'autres, eh bien j'ose imaginer que les civilisations qui viendront reconnaîtront dans cet homme un précurseur, un pionnier, un phare, et retiendront de lui non seulement qu'il a vu clair alors que autour de lui très peu de gens avaient cette lucidité, non seulement qu'il avait vu clair, avec de l'avance sur son temps, mais aussi et surtout qu'il nous donne, comme clé en main, des outils pour avancer vers l'avenir. Vie intérieure. Sais-tu que tu t'ignores? Cesse de te fuir, de te disperser, de te divertir, aurait dit Pascal, de t'éclater, on dira aujourd'hui. Recentre-toi, recueille-toi, rassemble-toi, arrête-toi. Un peu, 30 secondes, 2-3 fois par jour. Mais je suis pressé. Raison de plus, disait Lanza, et je l'entends. Tu vas faire des bêtises. Arrête-toi un peu, retrouve-toi. Et puis, rouvre les yeux et continue ce que tu as à faire. Vie intérieure. Approche de la vie intérieure. C'est un des plus beaux titres que nous voudrions le rééditer. Très précieux. Mais en même temps, ouvrir les yeux sur le monde. Ne pas être de ceux qui se laissent porter par le conformisme ambiant. Oser dire non à la violence. Pas seulement celle qui consiste à taper sur la tête de son voisin ou à lui envoyer, n'est-ce pas, avec bonne conscience d'ailleurs, des missiles, parce qu'il est très méchant, mais la violence économique aussi, plus insidieuse, plus discrète, la violence en col blanc, la violence boursière, la violence financière, la violence boursicotière, tout, et j'en passe. Qui fait la misère des plus pauvres pendant que les taux d'intérêt des plus riches et, mais je vous passe le tableau. Donc engagement, lucidité, sens du concret. Pas seul. Vous voyez, cet équilibre, nous le retrouvons entre une vie intérieure authentique, sérieuse, méditative, religieuse. Et puis, le courage d'engagement, même s'ils ont peut-être quelque chose d'apparemment anachronique. Il y a une photo superbe de Lanza del Vasto, c'est à Marcoule, je crois, au moment où, vous savez, les premières centrales nucléaires s'implantaient, et on savait très bien qu'on y fabriquait ce qu'il fallait pour faire éclater nos bombes. Et Lanza, avec une foule, se rassemble là pour dire « Nous, nous disons non à ça ». Et il y a en face de lui un cordon de CRS. Peut-être connaissez-vous cette photo. Elle est une photo historique, hein, solidement abritée derrière leur bouclier. Et Lanza reste longtemps assis en face d'eux, dans la foule. Ils ont leur matraque. Et Lanza se lève, va droit à cette haie de CRS casqués, bottés, armés, tout ce que vous voudrez, et ce sont eux qui s'écartent et qui le laissent passer. Voilà. Je ne voudrais pas en faire une image d'anthologie, mais c'est une belle icône, si vous voulez, de la force de la non-violence. Ils n'ont pas pu frapper cet homme qui les avait longtemps regardés en face. Ils l'ont respecté. Voilà. Alors, suivons ces traces. Chacun à sa manière et à sa mesure. Et je vous l'ai dit, je ne suis pas membre de la communauté de l'Arche, tout en évidemment ayant un immense respect pour le message de Lanza del Vasto. Je crois que le site d'ailleurs me permet de le vérifier. Je reçois des témoignages de partout disant « mais cet homme m'a marqué ». Voilà. Et je voudrais d'ailleurs recueillir sur le site, je vous dis ça au passage, des témoignages de gens qui sont encore vivants et qui pourraient dire, voilà, en telle et telle circonstance, Lanza a joué pour moi tel et tel rôle. Mais je m'arrête pour que nous ayons un temps, bien sûr, d'échange, de débat. J'avais beaucoup d'autres choses à dire que j'ai laissées de côté, mais c'est mieux ainsi.
Lanza del Vasto, 1901-1981, poète mystique et visionnaire. Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de l'intervention de Daniel Vigne, enregistrée à l'abbaye de Belloc le 25 juin 2011. Daniel Vigne est le président de l'Association des Amis de Lanza del Vasto et professeur à l'Institut catholique de Toulouse.